nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Arlette Farge, on le sait, voue à l'archive une véritable passion. On le sait d'autant mieux qu'elle nous l'avait fait partager avec son livre, devenu un véritable classique, Le goût de l'archive, paru en 1989. Historienne du XVIIIe siècle, qu'elle nous a rendu présent, Arlette Farge s'est intéressée à son petit peuple, à sa rue, sa foule, à l'étude de ses opinions, de ses comportements, de ses sensibilités, en se penchant sur ses archives de police. En 2000, elle était l'invitée de l'émission Du jour au lendemain, à l'occasion de la parution de son livre « La chambre à Delhi et le cordonnier de Tel Aviv ». Un essai dans lequel Arlette Farge rapprochait des archives du siècle des Lumières et quelques photographies contemporaines. Au micro d'Alain Weinstein, elle s'expliquait sur sa démarche qu'elle situait entre méditation, travail d'écriture et de recherche.
Machinalement survient ce geste. J'effleure du doigt des photographies particulièrement aimées, comme pour m'emparer des êtres ou des paysages fixés sur la pellicule. L'envie est là de toucher l'image pour en garder la mesure, ressentir ce relief, qui n'existe en fait pas, entre un avant et un maintenant. La folie profonde de la photo réside peut-être en ceci, mettre celui qui la regarde en un espace infiniment instable où il bascule entre la vision d'une réalité qui déjà n'existe plus et le besoin de saisir au corps ce temps immobilisé. En m'arrivant, certaines photos m'absorbent et je m'y enfouis, happé vers ce qui déjà s'est enfui, entraîné à vive allure vers les champs houleux du désir et du deuil. Désir que cela recommence un jour comme cela fut un jour. Deuil, quelque chose ici s'est à jamais déposé qui ne reviendra pas. Du jour au lendemain, avec Arlette Farge, qui publie « La chambre à Delhi et le cordonnier de Tel Aviv » aux éditions du Seuil. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, Arlette Farge. Vous avez publié une douzaine de livres, qui sont des livres d'histoire, d'une façon générale, avec une prédilection pour le XVIIIe siècle et pour l'archive. Et puis, maintenant, voilà que vous publiez un essai aux éditions du Seuil dans la collection Fiction et compagnie de Denis Roche, où il est beaucoup question de la photographie. On va voir quel rôle elle joue. Et du reste, j'ai remarqué ces derniers temps, en écoutant certains lundis, votre émission, Les lundis de l'histoire, où vous essayez de percevoir l'histoire autrement, que la photographie y joue de plus en plus un rôle très important.
Oui, j'ai fait une échappée, là, c'est certain. Mais une échappée qui, je crois, ne s'en va pas de l'histoire. Elle est enracinée, en fait, dans ce siècle que j'aime. Et Mais la photographie, effectivement, elle est pour moi une sorte de vibration. Enfin, certaines photographies, pas toutes, et puis peut-être celles qu'ils ont mises ici sont pas forcément les plus belles du monde. Je les aime bien, mais je les aime pour la relation intense que j'ai eue avec elles, parce que justement, il me semblait qu'elles étaient griffées quelque part de traces du passé et que bon, le passé les habitait par moments comme le passé nous habite nous et cherchant, et vous faites allusion à l'histoire autrement ou l'année de l'histoire, cherchant à toujours faire s'entrecroiser le passé et le présent. C'était un tout petit peu un défi d'ailleurs auquel je m'attendais pas tout à fait quand j'ai commencé et que j'ai présenté le premier chapitre à Denis Roche. Je savais pas trop la tête qu'il ferait. Et bon, j'ai commencé à écrire ça parce que c'était comme une urgence de venir là, de venir en ce lieu-là, peut-être aussi d'irradier un art qui est celui de la photographie, d'un savoir qui est quand même d'habitude distillé de façon assez académique, et que après tout, si on a une discipline aussi rigoureuse soit-elle, pourquoi ne servirait-elle pas à éclairer certaines formes d'art? Là, c'est la photo, ça pourrait être la peinture, ça pourrait être le cinéma que j'aime beaucoup aussi. Et bon, je crois aussi qu'en l'écrivant, j'avais vraiment très peur de ce que pourraient dire les historiens. C'est vraiment un mauvais chemin quand même pour eux, et peut-être aussi les photographes.
Ce sont des mauvais coucheurs, les historiens.
Non, c'est pas des mauvais coucheurs, c'est des gens sérieux. Et je me disais qu'ils allaient penser que c'est peut-être pas très sérieux, parce que c'est quand même un défi, une photo de Depardon, 20e siècle, d'y retrouver le 18e. Quand je l'expliquais d'abord à l'éditeur, il disait « Écoute, écris, parce que je comprends pas trop ».
Oui. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une tentation qui perce dans ce livre, qui serait de pas seulement de raconter l'histoire autrement, mais d'écrire autrement, d'écrire peut-être du côté de la fiction?
Oui, alors je vais vous répondre non, mais vous n'allez pas me croire parce qu'on ne me croit jamais. Je veux pas écrire de la fiction. Je sais que je suis dans la collection fiction. Je veux pas écrire de la fiction. Je veux pas écrire de romans. Je veux me servir de mon écriture pour qu'elle puisse encore, en cherchant encore peut-être d'autres moyens, pour qu'elle puisse continuellement essayer d'éclairer la parole de ceux qui ont vécu il y a longtemps et la nôtre, et nos accidents de vie. Et j'ai pas envie de faire un roman. Alors, c'est peut-être de la fiction, ça, mais j'ai envie de rester... J'ai pas envie de rester vraiment dans le 18e siècle. Je sais qu'on me dit que je ressasse, mais je sais pas, c'est mon lieu. J'y suis bien, et je m'en sers, et je me vois pas faire un roman.
Mmh. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le roman? Vous n'aimez pas les mensonges? Vous n'aimez pas les histoires? Vous aimez l'histoire seulement?
Non, mais ce qui me fait peur dans le roman, c'est que moi, je serais pas à la hauteur d'un roman. Je serais pas. Et pour moi, le roman, c'est en haut, tout en haut, dans l'écriture. Et je crois que j'aurais pas ni l'imagination, ni. J'ai peur de faire un mauvais roman. On préfère faire un essai qui se tienne.
Dès le début de La Chambre à deux lits et Le Cordonnier de Tel Aviv, La Chambre claire de Barthes est citée. Et dans le texte que j'ai lu pour commencer, qui est le tout début du livre, il y a des expressions, entre guillemets, qui sont de Roland Barthes, La Folie profonde, par exemple.
C'est le seul livre quand j'ai démarré ce projet, que j'ai voulu lire, relire, m'approprier. Je l'avais bien sûr depuis longtemps lu. J'ai pas voulu lire d'autres livres sur la photo parce que j'avais peur de mettre un écran entre les photographies et le projet que j'avais. Mais effectivement...
Même pas Denis Roche.
Denis Roche, bien sûr, son boîtier de mélancolie, et puis je l'ai lu, puis je l'ai cité, puis mais c'est ses photos, bien sûr, c'était très présent, mais c'est vrai que je voulais pas lire tous les Suzanne Sontag et puis toute la théorie sur la photo, parce que j'avais peur de perdre le fil conducteur. Mais Barthes, ça me paraissait si lumineux, notamment son chapitre, bien sûr, si connu sur la photographie de sa mère. Et je pense que pour moi, c'est là où j'ai été très, très touchée, parce que c'est effectivement entre le désir et le deuil, et ce livre, il est fait entre le désir et le deuil.
C'est la lecture de La Chambre claire de Barthes qui vous a donné envie de vous intéresser à la photographie?
Pas du tout. Non, pas du tout. C'est la photographie, ça m'accompagne depuis longtemps. J'aime bien aller dans les expos. J'aime les livres de photos. Je la trouve par moments insupportable, la photo, parce que justement, elle arrache autant un moment qui n'existera plus. Et moi, je me dis, c'est affreux. Pourquoi? Surtout quand elle représente un geste, etc. Et peut-être le moyen de m'habituer à la photo, ça a été d'y lire ou d'y trouver des traces du passé, quelque chose qui nous habite à notre insu, et aussi quelque chose qui nous accompagne sans que nous le sachions. C'est-à-dire, moi, le 18e siècle, je n'ai aucun souvenir de lui. Je n'ai que des
écrits. Vous n'avez pas vécu au 18e siècle?
Non, je n'ai pas vécu au 18e siècle, je n'ai pas de souvenir de lui. Et justement, je crois qu'il est... Mais ça pourrait être le 19e ou le 16e, si je travaillais sous le 19e ou le 16e. Je crois simplement qu'il y a des choses dont nous sommes héritiers et qu'il y a des regards, des gestes, des paysages qui permettent de faire cet aller-retour un peu particulier.
Alors, il y a deux références qu'il faut citer pour y voir un peu plus clair sur ce livre. Arlette Farge, c'est Barthes, on vient de le faire, mais aussi Montaigne, hein, parce que vous dites que la photo est un passage, par référence à ce que Montaigne dit lui-même, « Je ne peins pas l'être, je peins le passage ».
Oui, je crois que c'est, pour moi, c'est très important et c'est presque ce que j'essaie de faire dans mon travail d'historienne. C'est-à-dire, je ne veux pas décrire, je ne veux pas faire une histoire ni descriptive ni anecdotique. Je veux lui donner du sens, l'interpréter, faire que ceux qui la lisent soient aidés éventuellement dans le présent. Et donc, c'est vrai qu'être passeur, c'est peut-être pour ça que je n'écris pas de roman. C'est parce que par l'histoire, je passe à. Et je ne décris pas l'être, sans doute, mais j'ai envie de passer de ces êtres-là à nous.
Il y a quelque chose du passé, des siècles passés, qui passe dans la photographie?
Oui, alors ça c'est peut-être mon imagination ou mon intuition, ou mon invention ou mon désir. Parce que c'est bien évident que si on regarde les photos les unes après les autres, personne ne peut vraiment penser au XVIIIe siècle. Et que moi j'y pensais surtout la photo de Pardon sur l'eau, cette barque, je ne sais pas pourquoi. C'était tellement intense pour moi qu'elle a été le début du projet. C'est elle qui a insufflé le début du projet. Parce que j'y voyais tous ces paysages d'eau que nous avons oubliés dans cette terre d'Afrique et que... Pour moi, c'était d'une présence extrêmement grande, bien qu'il y ait un moteur. Et qu'au 18e, que je sache, il n'y avait pas de moteur. Mais cet homme qui circule visiblement dans l'eau me rappelait le nomadisme des gens du 18e et ces gens qui vivaient par l'eau dans une espèce d'anonymat, d'errance et de difficulté et de plaisir en même temps. Et je ne sais pas, c'est comme ça que c'est parti le projet.
Je comprends que la chambre de lit ait pu effrayer les mauvais coucheurs, Arlette Farge, parce qu'il y avait quand même un drôle de pari au départ de ce projet. D'abord, de rendre visible le passé, ce qui n'est pas évident. Est-ce qu'il faut que l'histoire rende visible? Voilà une question. Et puis aussi, parce que comme vous le dites, la photo, quelle qu'elle soit, est toujours contemporaine de l'objet, de l'événement, du geste ou du visage dont elle s'est saisie. Et vous le savez très bien, puisque c'est vous qui signez le texte qui se trouve en quatrième de couverture de votre livre. En d'autres termes, on ne peut photographier que du présent qui s'en va et se meurt. Alors, le lien avec l'histoire n'est pas évident à première vue.
Non, je crois que tout est dans le qui s'en va et qui meurt. Et que c'est dans ce lieu-là que je me suis placée pour penser que si ça s'en allait, ça subsistait encore quelque part, et quelque part en nous, et quelque part dans ces photographies. Et que si ça mourait, ça c'est certain, l'histoire était quand même un travail sur les morts, sur le défunt, sur ce qui est définitivement aboli. Et que le passage par la photo permettait de faire comprendre que nous portions en nous aussi bien le défunt que le vivant. Alors visible, c'est aussi sans doute parce que je suis très influencée par le type d'archives sur lequel je travaille, qui sont extraordinairement visuelles, et je crois que je vois avant de... Quand je lis les archives, je vois avant de l'interpréter, je vois avant d'écrire, je vois des couleurs, je vois des formes, je vois des gestes, et que ça m'a rapprochée de la photo. C'est comme un arrêt sur vie, un instantané, quelque chose qui vient dans mes yeux, et après, ben, je travaille dessus comme... une brave historienne, en faisant le travail normal qu'il faut faire. Et là, ça me donnait une grande liberté quand même. Mmh. Ça, c'était bien.
Mais un peu plus loin dans le livre, presque à la fin d'ailleurs, vous dites que la photo, avant tout, est séparation, tandis que l'histoire tente de combler l'absence, d'ordonner les vagues et de calmer les morts.
Oui, l'histoire, elle essaie de calmer les morts, trop, je trouve. Elle oublie vraiment les aspérités, les singularités. Elle a quand même une notion très forte de la linéarité, de la causalité. Et la photo, elle est brusque en un sens. Elle arrête un mouvement, elle arrête un moment. Peut-être justement, c'était ce qui me plaisait, et je pense que c'est comme ça que j'ai voulu interpréter la photo de Valérie Jouve, de cette femme qui surplombe une rue de dos. Et c'était que justement, cette femme, elle est singulière, elle représente un personnage totalement singulier dans un environnement collectif. Et qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à faire en histoire ? C'est de mettre la discontinuité, l'aspérité, et que oui, la photo, elle est séparation. Elle est séparation et elle est du côté de la mort, mais elle est aussi du côté du toucher de l'autre, du côté de la douceur de ceux qui ont vécu et qui nous rappellent quelque chose. Et puis peut-être quelque part, grâce à ça, on réussit à tenir compagnie encore à ces gens-là, ou bien qui nous tiennent compagnie, je ne sais pas.
Oui, mais est-ce qu'elle ne risque pas d'aboutir à un certain anachronisme ?
Oui, bien sûr, bah, c'est complètement anachronique. Mettre une photo, justement, d'un bateau à moteur pour dire c'est le 18e, c'est un côté complètement ridicule. Mais je veux dire... Là, je travaillais pas dans l'anachronisme, je crois que je travaillais dans un système d'association d'idées, dans un système plus associatif que d'un système de causalité. C'était plutôt comme peut-être aussi, je pense, des figurations picturales peuvent le faire. Peut-être que les Demoiselles d'Avignon peuvent susciter comme ça quelque chose aussi de cet ordre, de cette rêverie d'écart. Ça, je revendique pas du tout que ce soit une histoire en bonne et due forme. Mmh. Je crois que c'est l'écart qui m'intéresse.
Oui. Vous faites une comparaison d'ailleurs avec l'archive, qui oui. est le pain quotidien de l'historien et que vous aimez bien. Si l'archive me regarde, écrivez-vous, la photo le fait aussi. Et plus loin, vous notez que la photo n'est pas plus ou pas moins que l'archive le reflet du réel.
Oui, ça c'est sûr. C'est ça qui est intéressant, c'est que et c'est un problème pour les historiens qui justement travaillent très peu avec les photographies, parce qu'ils travaillent très peu avec les documents figurés. D'ailleurs, ils ont peur de l'art. Je crois que c'est vrai que la photo, comme l'archive, ne sont pas le reflet du réel. Ils sont déjà quelque chose qui est intentionnellement donné par le photographe d'une part, dans des conditions de production tout à fait claires. Comme l'archive, elle est le résultat d'un état, d'une police, d'une politique. Et elle n'est jamais, jamais un reflet du réel. Mais en même temps, les deux donnent des sensations qui influent sur notre réel à nous.
Thank you. Essayons de les voir alors, ces photos. Arlette Farge, qui se trouve dans la chambre à deux lits et le cordonnier de Tel Aviv. Le livre que vous publiez au Seuil, dans la collection de Denis Roche, Fiction et compagnie. Au début, il y a trois photos de Raymond Depardon. Et dans ces photos, vous voyez vibrer les existences précaires du XVIIIe siècle.
Oui, il y a une photo de route d'abord à Leipzig en RDA, une route morne et un peu triste et grisâtre avec des poteaux télégraphiques. Et puis il y a cette photo que j'évoquais tout à l'heure de l'eau avec en Afrique, en Éthiopie, je crois.
Le lac de Tana.
Voilà, c'est ça. Et avec une barque et puis une photo qui n'y est pas d'ailleurs, d'un train avec quelqu'un accroché au dernier wagon. Et c'est vrai que ça m'a donné l'idée de la route, du nomadisme, de l'errance et de ce que j'étais en train de travailler justement curieusement dans les archives, c'est-à-dire tous les gens retrouvés morts sur les routes de France et inventoriés dans les dépôts des greffes et où on retrouve à la fois leurs objets bien sûr, mais aussi les écrits qu'ils portent sur eux. Et effectivement, ça avait provoqué beaucoup c'est pas mon imagination, puisque c'était la réalité des archives, mais de voir toutes ces personnes continuellement en déplacement au 18e. Et ça m'évoquait justement ces trois, le train, le bateau, la route, enfin la barque et la route. Ça m'évoquait toutes ces existences qui avaient été toujours entourées d'eau, de départ, de fugue, de séparation. Et donc, pour entrer dans le livre, c'est vrai que ça m'a beaucoup permis de puiser dans ces photos comme, si vous voulez, comme... Enfin, j'ai un peu l'impression d'aller au fond des photos, de prendre comme ça la photo entre mes mains, puis d'aller voir derrière ce qu'il y a. Et j'ai retrouvé ces existences-là, effectivement.
Mais ce qui est étrange, c'est que dans ces photos, il n'y a pratiquement pas de personnages.
Non, parce que c'est vrai que là, en ayant travaillé ces archives, j'étais poursuivie par la façon dont les paysages et dont l'eau et les routes avaient modelé les vies. Et c'était ça qui m'impressionnait. Et on a oublié ça. En plus, ces archives sont pas du tout exotiques. Elles sont dans l'Île-de-France, donc c'est la Seine, hein, c'est la Seine, c'est l'Oise, c'est la Marne, et c'est tout un paysage qui, pour moi, faisait corps avec la vie de ces gens-là. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces photos d'abord.
Donc, ça vous fait signe.
Oui.
Mais en même temps, ce sont des signes qui sont enregistrés déjà dans votre perception des choses.
Oui, bien sûr. Ça me fait signe, ça me fait peine aussi quelquefois. Parce que, si vous voulez, c'est aussi, je crois, bon, il y en a deux qui sont d'Afrique. Et à mon avis, dans la vie de l'Afrique, il se passe des choses de ce genre. Et c'était permettre aussi le lien avec le présent. Donc, c'est aussi, il y a quelque chose dans le livre qui est à la fois le constat et la déploration.
Il y a une autre photo qui est celle d'un sommeil d'homme. Ah oui. Une photo qui date de 1922, qui s'intitule « Docker faisant la sieste ». Et vous dites que pour regarder cette photo, vous empruntez un lieu, l'accalmie.
Mais oui, cette photo, elle était pour moi tout à fait saisissante.
C'est de qui, déjà, cette photo?
Elle est de Lewis Hine.
Oui.
Et cette photo, j'étais saisie par elle parce que, justement, si vous voulez, quand on veut représenter le travail, on représente les gens en train de travailler. Je sais pas, il y a d'innombrables photos de Salgado qui permettent de voir les gens au travail, dans la peine, etc. Et moi, cette photo de la sieste, c'était la photo de la fatigue accumulée. Ouais. C'était la photo du rêve. C'était dormir. Et en même temps, ça me faisait penser à deux choses, à la fois à la vivacité du travail, à la fatigue du travail, mais aussi ces gens couchés en bas, à la condition des dockers de l'époque, qui non seulement sont sûrement exténués de fatigue, mais sont aussi en bas de la hiérarchie sociale, et peut-être que leur fatigue, elle est aussi dans la pensée, elle est aussi d'être ceux qui ont cette part illégitime, d'être en bas, d'être couchés. Et c'est pour ça que cette photo a été pour moi extrêmement forte dans le livre.
Donc des dockers faisant la sieste dans les années 20, ça vous permet de retrouver le monde du travail au XVIIIe siècle, et aussi... des descriptions de figures enrôlées en 1747 pour servir le roi en qualité de soldat.
Oui, parce que là, c'est toujours, c'est la peine, c'est le corps. Le XVIIIe siècle, c'est un siècle où le corps des gens les plus pauvres, est un corps exténué, est un corps de fatigue complète, un corps brisé, mutilé, blessé, mal soigné, pas guéri, en épidémie. Donc, si vous voulez, c'est pour ça aussi que je dis dormir n'est pas mourir, mais on n'est pas loin. Mmh. Et c'est ça que j'évoquais aussi.
Il y a encore dans ce livre une photo d'Emmanuel Farge, de la Butte aux Cailles, qui vous ramène au tableau de Paris.
Oui. Oui, parce que c'est une photo qui est drôle, parce qu'on voit un couple qui s'en va, qui descend une route, et puis ils sont tout à côté d'une immense affiche, qui n'est pas d'Ernest Pignon-Ernest, comme on pourrait le penser, mais qui est une grande affiche de quelqu'un avec le poing levé, un dessin. Et ça m'a rappelé le Paris du 18e couvert d'affiches, et cette espèce de paradoxe entre la vie, eux, ils ne regardent pas cette affiche, l'accumulation d'objets dans une ville et la façon dont à la traverse on y passe, où tout s'y passe et où on y passe. Et c'était un peu ça aussi l'esprit de cette réflexion sur cette photo.
Donc les personnages sont des porteurs symboliques.
Voilà, exactement. Ils sont à la fois peut-être, parce qu'ils ont l'air indifférents, mais ils sont peut-être porteurs de nouvelles, en ayant eu, en prenant. En tout cas, ça permettait de retrouver ce 18e si curieux, si avide de sensations.
Donc la photographie comme détonateur pour l'historienne.
Ben, je sais pas. Quelquefois, je sais pas ce que ça m'a fait. Quand je suis obligée de m'expliquer, je sais pas trop. Ça a fait ça, mais je sais pas si c'était de la détonation. Je sais pas. C'était une prise très forte avec quelque chose.
Des personnages qui vous amènent ailleurs.
Oui.
Ça pourrait être le début d'un roman.
Vous voulez vraiment que j'écrive un roman? Mais je saurais pas.
Parce que là, dans la photo d'Emmanuel...
Mais qu'est-ce qu'il ferait, les gens, là? Après, qu'est-ce qu'il ferait?
Il pourrait être d'autres...
Oui.
Personnages.
Bien sûr.
Qui vous mèneraient encore à d'autres personnages.
Oui.
Dans d'autres situations.
Oui. Et qu'est-ce qu'ils feraient? C'est toujours ce que je me demande dans un roman, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce qu'ils font faire les auteurs à leurs gens?
Ils font que les choses se passent.
Oui, ils font que les choses se passent, mais lesquelles?
Les choses de la vie.
Oui, les choses de la vie, oui. Oui. On les invente, tandis que là, elles sont là, puisqu'elles sont... Et moi, j'ai peur d'inventer pour les gens. Je ne veux pas trop inventer. Je suis contente que ce soit des vies vécues. C'est pour ça, peut-être. Puis en plus, je crois que j'ai pas... Bon, par exemple, là, les deux qui descendent la rue, qu'est-ce qu'ils font? Je ne saurais pas trop. Je ne saurais pas leur conduire un chemin.
Ils vont peut-être dans le mur.
D'accord, mais là, le livre va s'arrêter tout de suite s'ils vont dans le mur. Oui, ça irait très vite, je crois, mes romans.
Mais il y a peut-être une vie après la mort.
Ouais, moi, j'y crois pas.
Il y a d'autres dockers. Arlette Farge, dans une autre photographie de Marc Ribou, celle-là, c'est la photo d'une grève à Liverpool en 1954.
Oui.
Et là encore, ça ramène au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, même en colère, la foule, dites-vous, ne ressemble pas à cela. Alors, ça, c'est un autre cas de figure, là.
Oui, alors là, c'est un cas de figure, justement, de la différence. Et ça m'intéresse aussi, de travailler à la différence. Ça veut dire que là, ils sont tous avec des visages extrêmement graves, masculin pour la plupart, presque tous je crois, et donc ils doivent être en train de, je sais pas, de décider une grève ou d'être dans une manifestation. Or la foule du 18e est une foule totalement décomposée, éclatée, gestuelle, bariolée, etc. Et c'est deux mondes. Et en même temps, c'est une envie aussi de revendiquer dans les deux sens, mais dans une société du 18e très corporelle. Et puis là, la gravité des années 50, et puis la police des corps depuis ce temps-là. Alors donc là, j'ai travaillé dans l'écart, mais c'était peut-être plus trivial à la limite, parce que ça, on pouvait dire c'est pas pareil, etc. Mais c'était ça que ça m'inspirait, à vrai dire. Et puis dans une foule du 18e, il y a forcément des femmes, là il n'y a que des hommes.
Et puis il y a encore un autre cas de figure, c'est la photo qui d'aucune façon ne vous rappelle quoi que ce soit du 18e siècle.
Oui.
Et c'est le cas de la photo de Valérie Jouve que vous citiez tout à l'heure.
Oui. Oui, elle me rappelle rien. C'est impossible qu'elle me rappelle quelque chose. C'est une rue du, je sais pas, disons qu'elle tourne un peu haussmanienne, qu'on voit. Et puis c'est un balcon qui la surplombe, cette rue. Et puis il y a en gros plan une jeune femme qui a la main de côté, qui a le visage de côté, retenu par sa main, par sa paume. Et là, c'était, ça ne me rappelait rien, si ce n'est une éventuelle méthode possible en histoire, qui était, c'est pour ça que j'ai intitulé chapitre Lettres et singulier, qui était quelqu'un d'immergé dans un environnement, qui donc avait histoire avec cet environnement. S'il était là et comme ça, c'est parce qu'il était aussi modelé par cet environnement, mais il avait sa vie à lui. Elle est là, comme ça, d'un air un peu indifférent. Elle a une vie singulière. Et le rêve, quand j'ai vu cette exposition de Valérie Jouve, que je connaissais pas au départ, et c'est parti aussi d'un chemin comme ça dans son exposition, j'ai été complètement frappée. Je me suis dit, je voudrais écrire l'histoire comme ça. Je voudrais pouvoir écrire l'histoire en me disant, voilà, il y a un personnage bien, bien particulier, bien typé, puis il y a un environnement, puis moi, je dirais ça, elle et eux. Toujours l'idée d'articuler le singulier et le collectif. Mais bien sûr, là, ça ne me rappelle rien du 18e, ça n'a rien à voir.
Donc, écrire des vies minuscules, comme dit Michon.
Oui, écrire des vies minuscules, mais les écrire en les ancrant, en les inscrivant dans ce qui les fait, dans ce qui les fabrique et dans ce à quoi ils réagissent, contre quoi ils réagissent, ce qu'ils subissent, etc. Alors évidemment, c'est pas très... L'environnement, là, il est muet, l'environnement de Valérie Jouve, mais bon, on peut l'imaginer autrement.
Et encore une question que je voulais vous poser, Arlette Farge, c'est celle du titre tout de même de votre livre, parce que ça pourrait faire penser à un titre de roman. La chambre à deux lits et le cordonnier de Tel Aviv.
Est-ce qu'il faut que je fasse une réponse très élaborée ou que je dise la vérité?
Ah, faut dire la vérité.
Alors la vérité, elle est toute
simple.
Vous
êtes historienne.
Oui. Elle est toute simple, la vérité. On cherchait un titre avec Denis Roche, alors on était embarrassés dans les genres, traces, photographie du 18e, empreintes, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis je venais d'apporter mon chapitre, puisque je lui apportais chapitre après chapitre. Et puis moi j'avais griffonné, puisqu'il y avait ces deux photos, la chambre à deux lits et le cordonnier de Tel Aviv. Et puis avec son grande main et son poing, il a dit si c'était un titre. Et moi je me suis dit, ça va faire bizarre dans les catalogues de l'ABN. Et puis je me suis dit, tout le monde va rigoler. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont trouvé ça drôle. Et puis après, ça a fait chemin partout, chez Denis plus tard, et c'est devenu la chambre à Denis le Cordon. Alors ça, c'est la version vraie. Après, on peut réfléchir si on veut.
Vous l'aimez, ce titre ?
Oui, beaucoup. Beaucoup. Je l'aime parce que les gens l'aiment. Sans quoi, je sais pas, j'étais un peu dépaysée par le titre. Mais puisque les gens ont l'air de bien l'aimer, je l'aime.
Le livre d'Arlette Farge, La chambre à deux lits et le cordonnier de Tel Aviv, est publié aux éditions du Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Du jour au lendemain, Antoine Lehambre, Monique Veilleté, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir. Thank you.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 1er février 2000. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
L'aïtani, l'orati, l'arifa ma thawa, fil qalbi ufseha, kullama indi. L'aïtani, l'oratu, ala shafatin, tawaha l'ham. ولا تبدي إن صارحتني لفظها طرحت على الأسماع أسرارا من الوجد أو أضمارا ما شاقها كشفت على الصحراء آهاتي.